Le journal est présenté par Camille Magnard.
Bonjour à tous. L'opposition à Donald Trump tente de se fédérer aux États-Unis et ça commence par le Parti démocrate, bien sûr, parti qui a désigné hier son nouveau leader en la personne de Tom Perez, hispanique, proche de Barack Obama. Il s'impose face à un compagnon de route du progressiste Bernie Sanders. Les divisions internes sont toujours bien présentes chez les démocrates, Charlotte Alix.
Il serait caricatural de dire que l'élection de Tom Perez représente une victoire de l'élite démocrate et de l'aile centriste. Car le premier latino à diriger le parti est bien plus progressiste que la majorité des élus démocrates. Sur le fond, l'ancien ministre de Barack Obama proposait d'ailleurs peu ou prou la même chose que son opposant.
Je sais qu'on peut gagner les batailles qui nous attendent. Je sais qu'on les gagnera si on met nos valeurs en avant, si on montre la voie en étant rassemblés, si on mobilise l'énergie de notre base. C'est ce qu'on fera en tant que parti.
Mais à ses dépens, parce qu'il était soutenu par les caciques du parti, il représente l'establishment démocrate que Bernie Sanders et ses partisans rejettent. Pour ces derniers, la victoire de Tom Perez risque donc d'être perçue comme un affront. Eux soutenaient fermement Keith Ellison, le premier musulman élu député aux États-Unis, un des rares élus à avoir soutenu Bernie Sanders l'an dernier. Bien conscient du message que cette élection envoie à cette frange progressiste, Tom Perez a aussitôt nommé son opposant vice-président du parti et Keith Ellison a aussitôt appelé à l'unité.
Si vous êtes venu soutenir ma candidature, je vous demande de mettre toutes vos forces derrière le président Perez. Nous n'avons pas le luxe, les amis, de sortir divisés de cette salle.
Pas sûr que le message soit entendu, tant les divisions sont importantes. Le risque est réel de voir une partie des démocrates claquer la porte du parti.
Charlotte Alix à New York pour France Culture. Et quant au dernier tweet notable du président Trump, il annonce que ce dernier ne se rendra pas au mois d'avril au dîner des correspondants de la Maison Blanche. Un nouvel accroc donc dans les relations de Donald Trump avec la presse américaine. Ce traditionnel dîner des correspondants, il fait la part belle entre le président et les journalistes. À l'humour et à l'autodérision, ça n'a pas l'air d'être vraiment l'ambiance du moment. L'espoir de la paix en Syrie, fragile mais pas inexistant à Genève, où se déroule en ce moment un quatrième round de négociations entre le régime de Bachar al-Assad et l'opposition politique. Une opposition qui hier a dû donner des gages et se désolidariser de ceux que Damas appelle les terroristes, les groupes armés syriens qui ont mené hier encore un attentat à Homs contre les services de renseignement. L'opposition a accepté de condamner ce terrorisme. Les pourparlers sous l'égide de l'ONU vont donc se poursuivre aujourd'hui à Genève. Une fois de plus, une nouvelle mise en examen pour Frédéric Chatillon, un proche de Marine Le Pen, qui sera jugé donc pour abus de biens sociaux, soupçonné via sa société Riwal d'avoir financé illégalement le FN pendant les campagnes de 2014 et 2015. Frédéric Chatillon est déjà mis en examen, cette fois pour des soupçons similaires en 2012 pour la campagne présidentielle. Et dans l'autre affaire qui rattrape le Front National, les soupçons d'emploi fictif d'attachés parlementaires au Parlement européen, Le Monde évoque dans son édition du jour une note retrouvée par les enquêteurs sur l'ordinateur de Valeran de Saint-Just, le trésorier du parti. Note qui confirmerait qu'il s'agit bien là d'un système prémédité pour détourner l'argent de l'Europe au profit donc du Front National. Sur le centre de l'échiquier politique français, cette fois, c'est Emmanuel Macron qui prend décidément de plus en plus de place. Après avoir rallié à lui François Bayrou cette semaine, il dîne ce soir avec Jean-Louis Borloo. Finalement, l'Union des centres est peut-être en marche, Thomas Pontillon.
Même s'il est officiellement retiré de la vie politique, Jean-Louis Borloo reste une figure au centre. L'ancien ministre de Nicolas Sarkozy à la touche écolo a lancé ces dernières années sa fondation pour électrifier l'Afrique et il conserve encore une certaine influence. Jean-Louis Borloo est toujours président d'honneur de l'UDI, le parti qu'il a créé en 2012 et qui avait fait liste commune à l'époque avec le MoDem de François Bayrou pour les européennes. Alors le dîner de ce soir avec Emmanuel Macron va-t-il permettre de sceller une alliance? Ce serait en tout cas une belle prise pour le candidat d'En Marche. Jean-Louis Borloo, lui, déclarait en fin d'année dernière qu'il s'exprimerait dans les prochains mois sur les enjeux de la présidentielle. Le temps viendra, promettait-il. Un dîner qui a tout de même de quoi agacer l'équipe de François Fillon, vainqueur de la primaire de la droite et du centre, à laquelle l'UDI s'était jointe. Son président Jean-Christophe Lagarde avait soutenu Alain Juppé.
Thomas Pontillon et Emmanuel Macron qui enregistre aussi un soutien, cette fois en provenance du PS. Il s'agit de celui de Christophe Carèche, du courant réformateur socialiste qui estime que Benoît Hamon veut radicaliser le Parti Socialiste, en faire un Podemos à la française, et il rejoint donc la galaxie Macron. Et si François Hollande faisait un geste fort sur la scène internationale avant de quitter l'Élysée? C'est ce que lui demandent en tout cas 154 parlementaires français, tous bords confondus, dans une lettre qu'ils viennent d'envoyer au président. Ils le pressent de reconnaître officiellement l'État de Palestine. Une manière de soutenir le droit des Palestiniens à l'autodétermination, mais aussi de conforter la solution de paix à deux États au Proche-Orient. Solution mise à mal par Israël et par Donald Trump depuis son arrivée au pouvoir. 135 pays déjà ont reconnu la Palestine comme un État indépendant depuis 1988. Nous partons à présent pour Rio et son carnaval qui a démarré hier. Le grand déferlement de musique, de strass et de plumes ne parvient pas vraiment là-bas à faire oublier les difficultés brésiliennes, crise environnementale et politique aussi qui s'invitent dans les défilés. C'est un reportage à Rio d'Anvinia.
Cette année, le carnaval de Rio est plutôt politique au vu du nombre de musiciens qui interprètent des Dehors Temer, Fora Temer à chaque coin de rue. Mais la vraie polémique est au défilé des écoles de samba. L'école de samba Impératrice présente un samba qui met à l'honneur les peuples de l'Amazonie, leur lutte contre le barrage de Belo Monte, le Belo Monstre, qui dévore les forêts et assèche les fleuves. Des mots qui ont provoqué la fureur des députés qui s'opposent aux droits des Indiens. Ils ont menacé de sanctions l'école Impératrice. En réponse, les leaders indiens vont désormais défiler sur un char de l'Impératrice avec à leur tête leur leader le plus connu, Raoni, et ses 87 ans. Ils apportent leur solidarité, nous dit Sonia, une leader du Maranhão.
Impératrice a été très courageuse de parler des peuples indigènes, des attaques de l'agrobusiness. Parce que nous vivons une véritable offensive de l'agrobusiness. Et le carnaval va politiser ce débat et donner de la visibilité aux Indiens, les montrant comme ils sont, des défenseurs véritables de la nature.
Raoni au défilé du Sambódromo ce dimanche à minuit est annoncé comme un grand moment dans les journaux de Rio, offert par les députés parmi les plus conservateurs du pays et qui ont perdu une belle occasion de se taire.
Le carnaval de Rio qui dure jusqu'à jeudi. Du côté du ciel français, la grisaille revient ce matin par le nord-ouest et va s'étendre en journée au centre, à l'est et au sud-ouest. Les températures devraient s'échelonner dans l'après-midi entre 10 et 15 degrés du nord au sud, avec des pointes de 18 degrés autour de la Garonne.